Article du Kiné Actualité du 19 mai 2011 par Philippe Guyet, DEMKDO, IGA Bégin, Saint-Mandé, 94. Des pieds à la tête et tout le reste. Il est des sujets qui ne se rattachent à aucune région du corps en particulier, mais qui les concernent tous, comme l'innervation tégumentaire ou notre locomotion. Des dermatomes compliqués. La peau se divise en zones dites métamériques selon son innervation radiculaire, dessinant à la surface du corps un puzzle nommé dermatome. Ces territoires se recoupent un peu et sont sujets à variation d'un auteur à l'autre. Si leur apprentissage pour le tronc ne pose pas de problème puisque les tégument y sont découpés en tranches métamériques, la mémorisation des territoires des membres est parfois plus sujet à l'oubli. Néanmoins, l'embryologie semble éclairer leur compréhension. L'embryon a très vite la forme d'un haricot dont la face antérieure est concave. La disposition de ces dermatomes est initialement segmentaire, depuis les niveaux cervicaux jusqu'au niveau coccygien. Vers 4 semaines, les membres commencent à pousser. La naissance du bourgeon du membre supérieur tire les dermatomes C5, C6, C7, C8 et T1 vers son extrémité. La croissance de ce membre allonge C4 vers l'épaule et T2 vers l'aisselle. C5 et T1 sont étirés respectivement jusqu'à la face latérale du bras et la face médiale de l'avant-bras, quittant ainsi les tégument du tronc. Enfin, C6, C7 et C8 sont portés à l'extrémité du membre sans plus aucun contact avec le tronc, là aussi, pour innerver respectivement la face latérale de l'avant-bras avec le bord radial de la main, le troisième rayon de la main et son bord cubital. Les dermatomes du tronc passent alors directement de C4 à T1. Il en va de même pour le membre inférieur. Sa naissance déplace L2, L3, L4, L5, S1 et S2 vers ce bourgeon. L'étirement de ces territoires leur fait subir une striction au niveau du tronc. L3 et L4 disparaissent entièrement du tronc par cet étirement vers le membre. L5, S1 et S2 persistent un peu à la partie postérieure du corps. L2 reste relativement proximal. L1 et S3 demeurent totalement sur le tronc avec les dermatomes sus et sous-jacents. La palette formant le futur pied tourne progressivement en pronation pour que sa face plantaire regarde en distal. Entraînés dans cette pronation embryologique, les territoires s'enroulent alors de dehors en dedans, L4 vers la face médiale de la jambe, L5 vers l'hallux et S1 vers le dos du pied. Ce membre inférieur, sorti vers l'avant de l'axe du corps, se porte ensuite en extension vers le bas. L'enfant devient bipède vers l'âge d'un an. Ainsi, la tranche métamérique L1 s'ouvre à sa partie antérieure sur une hauteur plus importante qu'à sa partie postérieure. Mais ce développement ontogénique des dermatomes rachidiens n'est que le résultat des différentes évolutions phylogéniques des membres. Les protovertébrés hypothétiques représentaient des replis longitudinaux sur le corps à l'emplacement des actuelles nageoires des poissons. Certaines modifications homéotiques ont fait disparaître des portions intermédiaires de ces replis. Le repli dorsal a ainsi laissé les nageoires dorsales et caudales. Le repli ventral ne subsiste que par les nageoires anales et caudales. Et des deux replis latéraux ne restent que les nageoires pectorales et pelviennes. Le squelette de ces nageoires était formé de rayons osseux au nombre de deux par métamère. Puis la partie proximale de ces rayons a eu tendance chez certaines espèces à se concentrer puis se souder pour former les ceintures. Ces nageoires en peigne devinrent des éventails. Les rayons extrêmes se raccourcirent de telle sorte que les dermatomes C5 et T1 ne concernent plus la main ou que L2, L3, S2 et S3 ne concernent plus le pied. Puis, les premiers tétrapodes durent se soutenir par leur ancienne nageoire pectorale et pelvienne, devenues membres antérieurs et postérieurs. Le passage d'une quadrupédie reptilienne entre les pattes à une quadrupédie mammalienne au-dessus des pattes a induit une torsion médiale du membre antérieur. Les dermatomes les plus anciens, à savoir C5 et C6, retrouvèrent ainsi du côté médial avec le pouce. Les dermatomes C8 et T1 suivirent les rayons postérieurs vers l'extérieur. Il en va de même pour le membre postérieur. Une torsion médiale de la jambe et du pied amènera les rayons antérieurs vers l'intérieur et les rayons postérieurs vers l'extérieur. Les dermatomes du pied semblent d'ailleurs enroulés comme une chaussette dont on aurait tourné le bout en dedans. Pour l'illustration, on constate effectivement que le squelette du pied humain garde cette torsion puisque le rayon de l'hallux s'articule vers l'arrière, vers le talus, alors que les rayons latéraux prolongent le calcanéum plus bas situé. Diverses locomotions. Nos lointains ancêtres aquatiques, comme les actuels poissons, ondulaient leur extrémité caudale pour avancer. Nager avec une monopalme, par exemple, sollicite en chaîne série ouverte toute la musculature des membres inférieurs jusqu'au thorax. La quadrupédie des reptiles se caractérise par un corps bas et stable situé entre les pattes. Cette statique utilise certains muscles pour que le corps reste à distance du sol. Des exercices comme les pompes reproduisent ce principe. La plupart des mammifères quadrupèdes placent leur corps plus haut au-dessus de leurs pattes. La stabilité est alors moindre, mais la vitesse de déplacement est accrue par une plus grande amplitude cinétique des membres. Un patient aura donc d'autant plus de difficultés à résister à des poussées déstabilisantes qu'il sera en quadrupédie avec les membres tendus. Les grimpeurs verticaux arboricoles exercent des contraintes en traction sur ses membres antérieurs et en compression sur les membres postérieurs. La sélection naturelle a souvent favorisé des membres antérieurs longs pour faire le tour du tronc d'arbre ou se suspendre. De plus, des membres postérieurs courts rapprochent le centre de gravité vers l'arbre et diminuent ainsi son levier. Les exercices de Niederhofer replacent les muscles scapulo-rachidiens en chaîne fermée comme en suspension. Le sujet agrippe un barreau d'espalier et par la contraction des muscles d'une ceinture, il mobilise son rachis. Par exemple, l'action en chaîne fermée des adducteurs de la scapula peut tracter la concavité d'une courbure scoliotique ou en aplatir sa gibbosité. Pour un quadrupède, le redressement sur les deux membres postérieurs peut se faire rapidement ou lentement. Dans le premier cas, une vive accélération du corps vers l'avant tend à le redresser, rendant les membres antérieurs inutiles. Certains sports réutilisent ce principe, le départ des sprinteurs en athlétisme, l'attaque au sumo, etc. Ça a été souvent le cas pour les dinosaures, les oiseaux et les lémuriens notamment. Ces derniers se sont ainsi prédisposés à pouvoir sauter avec le tronc vertical d'un arbre à l'autre. Dans le second cas, le redressement est contrôlé étape par étape. Il suppose soit un allongement des membres antérieurs, comme chez les grands singes, soit un passage par la position assise, comme chez les écureuils par exemple. La bipédie semi-redressée positionne les membres inférieurs en flexion et le tronc en antéflexion. Les contraintes discales sont alors importantes sur le rachis lombal du fait du hors-aplomb antérieur du buste. Les hasards de l'évolution ont trouvé différentes solutions. Tout d'abord, la possession d'une queue équilibre en arrière la masse du tronc situé en avant du bassin. C'est le cas de bien des dinosaures, des kangourous, etc. Tout patient lombalgique ou futur lombalgique peut s'en inspirer pour ramasser des objets légers. En prenant appui sur un pied, il bascule alors son buste en avant pour saisir l'objet convoité d'une main pendant que l'autre membre inférieur s'élève en balancier dans le prolongement du tronc. La deuxième solution consiste à posséder un tronc court et large plutôt que long et fin. Le centre de gravité est alors plus proche du bassin, réduisant ce hors aplomb antérieur du buste. C'est ainsi que les oiseaux ont un corps ramassé ou que le manutentionnaire porte sa charge au plus près de lui. Enfin, une troisième possibilité consiste à verticaliser totalement le tronc au-dessus du bassin, comme l'a fait l'Homo sapiens. La bipédie humaine présente divers avantages: visibilité, taille, choix des femelles, thermorégulation, dépenses énergétiques, etc. En effet, des membres inférieurs allongés par une extension complète augmentent la vitesse de déplacement à coût énergétique égal. De plus, une bipédie semi-fléchie impose une activité musculaire importante et peu endurante pour tenir la position. Un homme marchant en flexion dépense 160 à 260% de l'énergie nécessaire à une marche normale. Un flexum de hanche ou de genou est donc énergétiquement coûteux. Inversement, une marche en flexion des membres inférieurs peut constituer un exercice de recrutement musculaire. Le sujet perd alors ses 50% d'autonomie énergétique phylogénétiquement acquise. Genèse des périodicités de la marche. Les australopithèques avaient un tronc volumineux, des membres inférieurs courts et des membres supérieurs puissants. Le grimper constituait encore une possibilité importante de refuge. Mais leur bassin était celui d'un bipède. Leur marche devait être rapide, changeant souvent de direction et couvrait de courtes distances. L'importante largeur de leur bassin les incitait à reporter la ligne gravitaire au-dessus du pied porteur par l'inclinaison du rachis et de la ceinture scapulaire. L'importante laxité rotatoire du membre inférieur, notamment du genou, leur permettait une grande giration pelvienne et ainsi de ramener le pied oscillant en dedans de la ligne de marche. Il s'agissait là d'un pas aventureux. Christine Tardieu a comparé les marches de l'homme adulte, enfant et du chimpanzé. Ce dernier a un centre de gravité bas situé, 50% de sa hauteur. Contrairement à l'idée reçue, son centre de gravité du chimpanzé ne se déplace que très peu durant sa marche bipède, notamment latéralement. Sa marche n'est alors pas qualifiable de chaloupée. Il équilibre ses appuis unipodaux par ses longs membres supérieurs dont il se sert un peu comme d'un balancier. De plus, il module constamment sa marche en adaptant sa vitesse de déplacement sagittale et les rotations du membre porteur. L'enfant humain acquiert d'abord un déplacement latéral de son centre de gravité. Au cours de la marche, ce centre de gravité se transfère de manière sinusoïdale d'un pied porteur à l'autre. Plus tard, il synchronise cette translation à un mouvement vertical de type cycloïdal dont chaque sommet correspond à la verticale d'un appui unipodal. Enfin, il régularise ces différents cycles dans le temps jusqu'à atteindre la périodicité typique de la marche humaine. La plus grande altitude du centre de gravité humain, 56,7% de sa hauteur, et de meilleurs leviers glutéaux permettent une translation latérale du poids du corps compatible avec un équilibre unipodal. La plupart des boiteries perturbent dans le temps ou dans l'espace la rythmique de cette marche.